Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Est-ce le maintien de la concurrence dans le secteur, la hausse des taxes ou une mauvaise gestion? En tout cas, les prix de l'électricité en France vont augmenter de près de 6% dès demain. Présentation des arguments, des justifications d'EDF et du gouvernement dans ce journal.
Et vous entendrez ensuite les réactions de policiers après les propos du procureur de la République de Paris. Il assure que des policiers seront jugés pour des violences sur des manifestants gilets jaunes.
Donald Trump annonce une surtaxe de 5% sur tous les produits importés du Mexique. 5%, puis 10, voire 25% au fil des mois. Le président américain veut ainsi peser sur l'immigration venue d'Amérique centrale. Nous irons à Washington.
Et puis nous irons aussi à Vienne. Une femme, chef de la Cour constitutionnelle, a été nommée pour remplacer le chancelier autrichien pendant 4 mois. Son portrait à suivre.
Après ce journal, petit éloge des militants du parti Les Républicains. C'est le thème du billet politique de Frédéric Seiss dans un gros quart d'heure. 5,9%, voici donc la hausse du tarif de l'électricité appliquée demain, 1er juin, pour 26 millions de foyers français. Cela correspondra en moyenne à 85 euros de plus pour les ménages qui se chauffent à l'électricité. Et pour expliquer cette hausse qui fait déjà réagir, chacun y va de ses explications, Léa Gage.
Le gouvernement et EDF se renvoient la balle pour expliquer cette flambée. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, accuse une dérive des coûts de production chez le fournisseur historique. Et de son côté, EDF dénonce une surtaxe de l'électricité. Les taxes, c'est un tiers de la facture. Par exemple, la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, depuis sa création en 2002, a augmenté de 650%. Aujourd'hui, elle représente 22,5 euros du mégawattheure. Les taxes s'applique à tous les fournisseurs, mais les fournisseurs privés, eux, peuvent fixer librement leurs prix, alors que les prix d'EDF sont régulés par le pouvoir public. C'est donc le gouvernement, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, qui prend la décision d'augmenter les tarifs de 5,9%. Selon le ministre de la Transition écologique, les coûts salariaux expliquent largement cette hausse. Il pointe aussi la ristourne accordée aux salariés d'EDF, qui ne payent que 10% du prix de l'électricité. Autre dérive, selon le ministre, la gestion du parc nucléaire. Pour lui, les Français financent le renforcement de la sécurité des centrales pour allonger leur durée d'exploitation. Sans compter, ajoute François de Rugy, l'EPR de Flamanville, dont le coût des travaux explose à 11 milliards d'euros. Mais il y a peut-être une autre explication à cette hausse du tarif réglementé, la concurrence sur le marché européen. C'est l'autorité de la concurrence qui s'en inquiète. Depuis 2010, c'est la loi. Les tarifs d'EDF doivent suivre ceux du marché pour ne pas pénaliser les fournisseurs privés. De ce point de vue, l'ouverture à la concurrence alourdit finalement la facture.
Et c'est d'ailleurs cet argument, le maintien de la concurrence dans ce secteur, cet argument qu'utilisent les associations de consommateurs, la CLCV et UFC Que Choisir, vont saisir le Conseil d'État contre cette mesure, contre cette hausse du prix de l'électricité qu'ils jugent injuste et anormale. Les associations dénoncent une augmentation qui ne sert qu'à faire vivre la concurrence. Cette hausse, rappelons-le, avait par ailleurs été reportée par le gouvernement en février dernier en pleine colère et manifestation de gilets jaunes. Voici maintenant une autre conséquence de cette colère qui s'est exprimée dans les rues depuis novembre. La violence. Violence notamment des forces de l'ordre envers les manifestants. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, ce matin, le procureur de la République de Paris assure que des policiers mis en cause pour ces violences seront renvoyés devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Rémi Heitz ne rentre pas dans le détail de chaque affaire, mais il affirme que des juges d'instruction travaillent déjà sur 8 cas de violence, notamment sur des manifestants frappés à la matraque à Paris, mais aussi à propos du tir de lanceur de balles de défense qui avait blessé à l'œil Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes. Les policiers sont donc des justiciables comme les autres, dit-il. Une mise au point nécessaire pour David Lebras, il est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Beaucoup imaginent à tort que les policiers bénéficient d'une forme de présomption d'innocence, voire permanente. C'est totalement faux. C'est une institution qui est extrêmement contrôlée, parfois extrêmement sanctionnée. Il faudra que les policiers, s'il y en a qui sont coupables, soient sanctionnés à la juste mesure de ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, ils sont des justiciables. Et s'il y a des faits qui leur sont reprochés, ils vont pouvoir s'expliquer devant la justice.
Alors en revanche, le syndicat Unité SGP Police estime, lui, que la responsabilité est collective. Grégory Joron est secrétaire national CRS pour Unité SGP Police FO. Il regrette des sanctions à deux vitesses, notamment en faveur du ministère de l'Intérieur.
Je vous rappelle que le préfet de police n'a pas été entendu. On lui a donné un poste de conseiller d'État aujourd'hui, alors que mes collègues, eux, ils se retrouvent dans le tribunal. Encore une fois, c'est les policiers de terrain qui vont servir de bouc émissaire suite à ces violences-là, et j'ai envie de dire donner en pâture à la vindicte populaire. L'échec, il est collectif. C'est pas l'échec d'un seul individu, encore une fois, tout seul derrière son LBD. C'est l'échec d'un ministère, c'est l'échec d'un dispositif, et c'est un échec absolu à chaque fois qu'il y a un blessé de cet ordre-là sur un maintien de l'ordre. Je m'interroge très clairement, pas sur l'indépendance de la justice, mais sur son impartialité.
Des propos recueillis par Frédéric Carbone et Anne-Laure Bouzige. Le suspect de l'attentat à Lyon reconnaît avoir fait allégeance au groupe État islamique. Cet Algérien de 24 ans est soupçonné d'avoir fait exploser un colis piégé qui a fait 13 blessés vendredi dernier à Lyon. Sa garde à vue se poursuivait encore hier soir. Celle de ses parents et de son frère ont été levées.
8h06 sur France Culture, la suite du journal avec vous, Clara Lecoq-Réal. Et après la Chine et l'Europe, Donald Trump menace économiquement le Mexique.
Le président américain annonce des droits de douane sur tous les produits mexicains, une hausse de 5% ces prochains jours, et ce, tant que le flux de migrants clandestins venus d'Amérique centrale ne sera pas stoppé par le Mexique. Voilà ce que dit Donald Trump. Son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, appelle ce matin au dialogue. Mais Donald Trump semble bien décidé à poursuivre sa stratégie de chantage, Grégory Phillips.
Si la Maison-Blanche applique bien la menace de Trump, à partir du 10 juin prochain, tous les produits en provenance du Mexique seront taxés à 5%, puis 5% de plus le mois suivant, et encore le mois d'après, jusqu'à atteindre 25% au 1er octobre. Chaque année, les États-Unis importent du Mexique environ 350 milliards de dollars de biens, des produits agricoles, des voitures, des instruments médicaux, etc., qui seront donc soumis à ces nouveaux tarifs. En enclenchant ce bras de fer commercial, Donald Trump veut faire pression sur les autorités mexicaines afin qu'elles luttent plus efficacement contre l'immigration clandestine. Mais la stratégie est risquée car elle peut torpiller l'accord commercial que Trump a pourtant lui-même conclu avec le Mexique et le Canada. Autre conséquence, tous les produits arrivant du Mexique aux États-Unis seront immédiatement plus chers. Mauvaise nouvelle pour le consommateur américain. Mais avec ces menaces, Donald Trump sait aussi qu'il replace l'immigration clandestine au cœur de son programme à 18 mois de la présidentielle.
Donald Trump qui, par ailleurs, a décidé de suspendre le traitement commercial préférentiel qui existait jusqu'alors entre les États-Unis et l'Inde. Il avait toute cette année régulièrement dénoncé les tarifs douaniers élevés que l'Inde impose aux produits américains. Elle remplace Sebastian Kurz et devient la première chancelière en Autriche. Brigitte Bierlein a été nommée hier soir par le président autrichien quelques jours après la motion de censure votée contre le gouvernement de Sebastian Kurz. Brigitte Bierlein restera donc chancelière par intérim jusqu'aux élections législatives prévues en septembre. Et elle n'a pas été choisie par hasard, Isorias.
Une pionnière, c'est ainsi que le président de la République, Alexander Van der Bellen, avait qualifié Brigitte Bierlein début 2018, lorsqu'elle était devenue la première femme présidente de la Cour constitutionnelle. Le président ne sera pas démenti puisque cette passionnée d'art va devenir chancelière d'Autriche, là encore une première pour une femme. Sa mission, constituer un gouvernement qui assurera la transition jusqu'aux élections législatives anticipées, prévues en septembre. Brigitte Bierlein a déjà donné quelques pistes. Elle a notamment cité Clemencia Blonner pour le poste de vice-chancelier, un ancien président de la Cour administrative suprême. Il faut en effet s'attendre à des ministres au profil technique, seule solution a priori pour contenter tout le monde. L'Autriche traverse une crise politique depuis plusieurs jours, depuis la diffusion d'une vidéo très compromettante pour le FPE, le parti d'extrême droite, qui a dû par la suite quitter la coalition avec les conservateurs. Mais ce scandale a aussi emporté Sebastian Kurz, le désormais ex-chancelier conservateur dont le gouvernement a été renversé par une motion de censure ce lundi, une première depuis 1945. D'où le besoin pressant d'un gouvernement stable. Les principaux partis ont d'ailleurs salué la désignation de Brigitte Bierlein au poste de chancelière. C'est déjà un premier pas.
Les femmes encore, le poing levé au Soudan. Elles ont défilé hier dans la capitale Khartoum devant le quartier général de l'armée. Une marche de protestation pour réclamer aux militaires le transfert du pouvoir aux civils. La contestation dure depuis 2 mois maintenant, depuis l'éviction du président Omar el-Béchir et la prise de pouvoir des généraux de l'armée. C'est la fin d'une longue attente en République démocratique du Congo. Le corps de la figure de l'opposition, Étienne Tshisekedi, mort il y a maintenant plus de 2 ans en Belgique, son corps est enfin arrivé dans son pays natal, en RDC, donc hier soir. L'avion transportant son cercueil s'est posé à l'aéroport de Kinshasa où des milliers de Congolais l'attendaient avec émotion. Une soirée qui fera date dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est un récit signé Florence Maurice.
Silence et recueillement. Lorsque l'avion d'Étienne Tshisekedi se pose enfin sur le tarmac, quelques proches sont au pied de l'appareil. Félix Tshisekedi, le fils désormais président, observe, visage grave aux côtés de nombreux officiels. Il serre sa mère longuement dans ses bras, puis pose ses mains sur le cercueil. L'émotion se lit dans les regards. Patricia Kabena est l'une des filles de l'opposant.
Notre père, élu en 2011, bien qu'il n'a pas exercé son pouvoir, il reste notre président élu.
Un mélange de tristesse et de soulagement de voir enfin l'opposant historique de retour sur sa terre. Christophe Ngoï, figure de la société civile congolaise.
Sa présence va raviver la flamme qu'il a laissée et nous sommes là pour l'entretenir.
Nombreux dans l'assistance expriment leur reconnaissance vis-à-vis du combat mené par l'opposant pour qu'émerge la démocratie dans le pays. Parmi eux, l'ex-prisonnier politique Frank Diongo.
C'est une perte immense pour la RDC. Il nous enseignait à dominer la peur, à démystifier les dictateurs, à combattre pour un état de démocratie.
Le cercueil est placé dans un corbillard vitré et aux couleurs du drapeau congolais. Lorsque le cortège funèbre quitte l'aéroport, une foule nombreuse s'élance dans sa suite en courant.
C'est ici notre héros, leader maximum de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux d'avoir créé notre père de la nation.
C'était un reportage de Florence Maurice, correspondante de RFI à Kinshasa pour France Culture. Deux Israéliens ont été blessés, dont un très grièvement ce matin dans la vieille ville de Jérusalem. Une attaque au couteau isolée. L'assaillant a été neutralisé, indique ce matin la police.
Et puis partons maintenant au Brésil, Clara, où pour la deuxième fois en un mois, des milliers d'étudiants et enseignants sont descendus dans la rue pour défendre l'éducation.
Des manifestations d'ampleur hier soir contre la politique du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Notre correspondante dans la capitale, Anne Vigna, a suivi le cortège.
Toutes les grandes villes du Brésil ont connu à nouveau hier des manifestations monstres contre le président Bolsonaro qui veut réduire les budgets de l'enseignement supérieur. Camilla est venue manifester à Rio car la baisse du budget de son université est bien trop importante.
Sur notre pancarte, on a écrit « Liberté, égalité, université » en référence à la Révolution française, car notre gouvernement est en train d'amputer le budget de l'éducation. Rien que dans l'Université fédérale de Rio, on a une amputation de plus de 40% du budget et cela a un énorme impact sur la vie des employés, des étudiants et professeurs de l'université. L'éducation devrait être une priorité. Aucun pays riche ne l'est devenu sans investir dans l'éducation. Donc le gouvernement doit comprendre que l'éducation est la seule solution pour sauver notre pays.
Rita, professeure dans le secondaire à Rio, considère aussi que l'université est la seule issue pour réduire l'inégalité abyssale du Brésil.
Je suis professeure d'histoire au lycée et mes élèves sont les étudiants de demain. Je vois bien qu'ils n'auront jamais les moyens de payer une université privée. Certains doivent déjà abandonner le lycée pour aller travailler, alors ceux qui continuent, ils cherchent une vie meilleure et seule l'éducation peut leur permettre ça.
D'ailleurs, Bolsonaro a ignoré les manifestations hier soir alors qu'il avait traité les étudiants d'idiots lors de leur première mobilisation. Le silence plutôt que l'insulte, mais qui traduit un profond malaise du gouvernement sur le sujet.
Anne Vigna à Rio de Janeiro. Les manifestants se sont donné de nouveau rendez-vous dans 15 jours. L'éducation encore, mais en France cette fois, en Guyane. Ce département d'outre-mer est celui qui a le plus grand nombre de décrocheurs scolaires, 40%, quand en métropole, il représente 10% seulement des jeunes de 18 à 24 ans. Cette spécificité guyanaise s'explique en partie par la forte migration venue du Suriname et du Brésil voisin. À cela s'ajoute une situation économique et sociale compliquée. Pour France Culture et le grand reportage de la rédaction, Hakim Kasmi s'est rendu en Guyane. Il a notamment rencontré Juliana William, une professeure de français au collège Lysophion, dans un quartier sensible en périphérie de Cayenne. Elle témoigne de ce décrochage scolaire dû à la migration.
Ce sont des élèves qui sont inscrits, qui ont parfois fait que le CM2 et qui, dans leur pays d'origine, n'ont pas appris à lire et n'ont pas été scolarisés. Donc, on a ce cas de figure où ces élèves nous arrivent en sixième et il faut faire avec. Donc, au collège, la politique est que, en sortant du collège, tous nos élèves doivent apprendre au moins à lire. On a encore des élèves de troisième ne sachant pas lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours difficiles. Certains, c'est que bon, ils ont un dégoût aussi du système scolaire. Ils veulent pas. Il y a l'argent facile parfois dans certains quartiers difficiles. Où être une mule rapporte beaucoup plus qu'aller à l'école. Donc lorsqu'on est dans des quartiers dits difficiles de Matoury, le gain de l'argent facile permet à certains de nos élèves de décrocher facilement aussi.
Voilà pour ce témoignage d'une professeure en Guyane que vous pouvez retrouver en longueur avec bien d'autres témoignages. Ce soir, à partir de 17h sur France Culture, c'est le grand reportage intitulé « École de la confiance, un défi pour la Guyane ». Il est réalisé par Hakim Kaspi grâce à Annie Brault. Et dans la foulée, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera l'invité de France Culture avec Aurélie Kiefer. Le ministre qui, il y a 15 ans, était nommé recteur de l'Académie de la Guyane. Il répondra à nos questions. Le soleil s'installe sur l'Hexagone ce vendredi. Les quelques nuages matinaux de la Normandie devraient se dissiper à la mi-journée. Comptez ce matin 18 degrés à Lille, 20 à Paris et Rennes, 21 à Strasbourg, 22 degrés ce matin à Bordeaux et Lyon, 24 à Perpignan. Des températures qui vont grimper jusqu'à dimanche.
Merci Clara Lecoq-Réal. Dans quelques minutes, nous allons retrouver notre invitée Bibia Pavard avec qui nous parlons du droit des femmes et de ce recul mondial du droit des femmes. On accueillera une autre invitée, Jennifer Merchant, avec qui on parlera peut-être plus en particulier des États-Unis. Mais avant cela, ce sera le billet politique de Frédéric Saïs.